Bonsoir les amis des livres et des apéros. Il paraît qu'un homme de pouvoir, c'est infaillible. Qu'il soit président de la République française, roi ou empereur, l'homme de pouvoir ne doit afficher aucune faille. Zébrure interdite, cela reviendrait à balafrer le visage du pays qu'il est censé incarner. Mais ça va pas, non, s'indigne la littérature. Oh, mais j'en ai ras la couronne de ces clichés. Regardez du côté des livres, c'est exactement l'inverse. Les hommes de pouvoir tirent leur grandeur de ce qu'ils sont bourrés de faiblesses, justement. Dans la littérature médiévale, les rois, ils sont tous cocus. Le roi Marc, le mari d'Iseut, il sait que sa femme préfère Tristan et il n'arrive pas à lui en vouloir. Il essaie, mais il l'aime trop. Et son copain, le roi Arthur, il se fait rapter son épouse, Guenièvre, par son meilleur chevalier, Lancelot. Merci le discernement. Quant à Macbeth de Shakespeare, bonjour le sang-froid, il trucide tout le monde et il devient fou. Alors non, pas vraiment infaillible, les hommes de pouvoir. Et encore moins dans VIP de Laurent Chalumeau, paru chez Grasset. Le président de la République française rend visite à sa maîtresse, une actrice, dans le 7e arrondissement parisien. Mais quand il arrive dans l'appartement, il tombe sur une scène qui lui glace le sang. Et il perd les pédales, il tue tout le monde. Or, un paparazzo est caché dans l'immeuble d'en face. Un paparazzo qui, ahuri, voit le président commettre l'irréparable et qui prend tout en photo. Problème, comment se sentir à l'aise avec ce carnage en boîte ? Sans compter que l'État devra mettre tout en œuvre pour supprimer les témoins. Et nous voilà embarqués dans une intrigue à 200 à l'heure, un peu comme si Ridley Scott avait lu Closer, avec plein de suspense et de gros mots, et en prime, une critique au vitriol des élites, qu'elles soient institutionnelles ou branchées. Alors, le temps d'un apéro, nous partagerons un amuse-bouche avec Laurent Chalumeau, mieux qu'une garden party à l'Élysée. Il nous révélera ses secrets d'écriture gardés comme les adultères d'un président, ce sera le procès-verbal. Nous livrera ses vices culturels aussi cachés qu'un mensonge d'État, ce sera les inavouables. Avant qu'un libraire, gardien de nos zones d'ombre, ne vienne pardonner et même encourager nos offenses à la transparence.
France Inter, l'amuse-bouche, Clara Dupont-Monod.
Bonsoir Laurent Chalumeau.
Bonsoir.
Vous avez imaginé un président qui persénère, qui se conduit en impulsif et puis qui se conduit après en lâche. Est-ce que votre objectif initial, c'était de chahuter l'homme de pouvoir ?
En fait, c'était pas sa figure à lui qui m'a déclenché. D'ailleurs, il est évoqué, mais il est toujours off. Techniquement, ça me paraissait très difficile de me mettre dans la tête d'un président de la République, quel que soit d'ailleurs le dispositif autour. Bon là, il s'agit d'un échafaudage de polar avec des éléments un peu scabreux, mais c'est très difficile le pouvoir à représenter de l'intérieur. C'est plutôt en creux, par rebond, par jeu de miroir. D'ailleurs, c'est ce que peut-être j'ai réussi à faire. Comme l'une de mes techniques consiste à être dans la tête des personnages, la tête d'un président de la République, c'est toujours très compliqué. C'est ce qui rend, par exemple, la composition de Nils Arestrup dans la série Baron Noir si exceptionnelle et si convaincante. C'est qu'il est juste aussi bien dans les séquences où il est en représentation officielle que quand il dit « passe-moi le sel ».
Et ça a été quoi le point de départ alors de ce livre, si vous dites que ce n'était pas la figure du pouvoir ?
Au départ, ça vous éclairera, je pense, plus si je vous dis que c'était pas censé être un roman, c'était censé être une nouvelle. L'amant de la dame qui était en instance de subir d'abominables outrages de la main de deux cambrioleurs, son sauveur potentiel, c'était le président de la République. C'était effectivement un rebond plus ou moins conscient sur les photos qui étaient parues quelques mois avant. Et puis, quand j'ai eu fini cette nouvelle, il y a eu tout un concours de circonstances qui m'a amené à envisager d'en faire un roman. Et donc, il a fallu que je tire sur les fils. Mais subitement, ce président de la République que j'avais balancé là, comme ça, en toute dernière instance, avec un peu de désinvolture et en m'en lavant les mains, mais il fallait que je le gère, il fallait que j'en fasse quelque chose. Et en fait, j'ai réussi à... les fils sur lesquels j'ai eu envie de tirer, c'est les fils qui dépassaient d'autres rideaux ou d'autres meubles. Comme je vous disais à l'instant, la présidence, ça me paraissait intimidant et pas forcément le plus intéressant. Techniquement, je ne voyais pas comment moi j'allais m'y prendre. Et puis c'est chiant de se documenter sur la réalité de l'exercice d'un pouvoir présidentiel en plus. Alors qu'en revanche, les courtisaneries, les visiteurs du soir ou du mercredi, c'est des faunes desquelles je me suis parfois trouvé à moins d'un degré de séparation. Donc là, j'avais du bois pour la chaudière.
Et vous parlez de faune, alors on voit les services de l'État se mettre en branle, qui vont protéger le président de la République qui a fait l'irréparable. On voit la nomination d'un procureur qui prend étrangement son temps pour lancer une enquête. Il y a la destruction des preuves aussi. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté, les élites masculines plutôt occidentales, toutes pourries ?
C'est un peu le sentiment que moi, j'avais pendant les semaines et les mois où je travaillais sur le livre. Le hasard du calendrier a voulu que je m'y mette sérieusement dans l'immédiate suite des tueries de novembre 2015. On était tous dans une humeur particulière, évidemment. Ce qui était, de mon point de vue, atrocement pénible à vivre, c'était les paroles diversement débiles, voire abjectes, que ça libérait, comme si les égouts s'étaient mis à déborder d'eau usée de toutes couleurs, si j'ose dire. J'étais agressé dès que mes systèmes de protection, c'est-à-dire tout bêtement de pas brancher ni une radio ni une télévision, mais dès qu'il y avait une faille dans mon armure et que la parole diffusée en continu sur diverses ondes parvenait jusqu'à moi, j'avais le sentiment d'une abominable toxicité.
Et c'était de la part des élites, de la part.
Oui, alors non, ou alors il faut tirer sur le mot élite comme sur une capote anglaise pour lui donner de l'élasticité, mais c'était, oui, souvent des mâles blancs un peu âgés qui péroraient, chacun d'ailleurs portant les couleurs de son équipe. Hein, mais il y avait comme ça de la bêtise ajoutée à la bêtise, de l'horreur ajoutée à l'horreur, de la méchanceté ajoutée à la haine. Et c'est vrai que ces gens qui techniquement constituent une élite, puisqu'ils ont pignon sur rue, ils ont de voix au chapitre, enfin toutes ces expressions françaises qui disent bien quelque chose, ils détiennent le droit à la parole, et ben ils en faisaient un mauvais usage. C'est-à-dire que là où on aurait eu besoin de choses intelligentes, on aurait eu besoin de nuances, on aurait eu besoin d'explications, on aurait eu besoin de rassemblements, sans mièvrerie, sans angélisme, hein, c'est pas les Télétubbies, mais par des gens qui fassent apparaître davantage ce qui nous rassemblait ou réunissait plutôt que ce qui nous divisait, et ben on avait l'exact contraire. Et le fait qu'ils soient tous braguettés, bragueteux, blancs, un peu âgés, et que ça ne les empêche pas une seconde de légiférer par décret sur des sujets qui concernaient des gens éventuellement plus basanés qu'eux, ou d'un autre sexe, ou d'un autre âge, c'est vrai que ça a ajouté encore à mon exaspération. Donc c'est vrai qu'il y a eu une volonté, alors là pour le coup consciente, faufiler en contrebande ou au contraire accroché aux branches de ma fiction polardeuse, donc d'un projet destiné à divertir, d'y accrocher une exaspération provoquée par les élites blanches masculines, absolument.
Vous avez une façon très concrète, Laurent Chalumeau, très précise de raconter le travail de la police. Et on lit votre livre et on pense à une série et on y pense plus d'une fois.
J'ai pu identifier votre accidenté de la route. Son empreinte était répertoriée. Brian Clements, 22 ans, né à Las Vegas. Il était sourd. Pour être sûr, j'ai examiné le canal de l'oreille interne. Nous avons un petit os qui s'appelle le marteau à cause de sa forme. Le manche du marteau se termine par une tête qui est normalement arrondie. Chez Brian, elle est sclérosée dans les deux oreilles.
Malformation congénitale ?
Vous voyez le sang séché sur les articulations. Et pourtant, il n'a aucune blessure. Ce n'est pas son sang, par conséquent.
Ça veut dire qu'il s'est battu. Il y a eu de la castagne.
Qui a tourné au meurtre.
Vous avez envoyé le sang au labo pour l'ADN ?
Quand vous aurez votre suspect, une seule goutte de sang suffira pour le coincer.
Les experts. Laurent Chalumeau, pour avoir toutes ces infos, parce qu'on vous suit dans les méandres de l'enquête policière, dans les détails, vous n'avez pas regardé que les experts.
Ah non,
si.
Surtout pas. Non, bah non, je me suis rapproché des gens dont c'est le métier pour de vrai en France et qui sont très contents de parler de leur boulot parce qu'ils l'adorent et qu'ils ont à cœur de nuancer l'engouement que la série des experts, enfin que les séries, les experts, les déclinaisons des experts, l'engouement que ça a pu susciter dans le grand public. C'est-à-dire qu'ils en accusent réception, ils sont contents de voir que du coup leur boulot est pris en compte et fait rêver, mais bon, ils veulent quand même rétablir deux trois vérités.
Deux trois petites vérités. Ouais. Il y a un autre milieu que vous sondez presque en ethnologue, c'est le milieu des paparazzi. Votre paparazzo, il s'appelle Patrice Corso. On va pas se mentir, sa profession, elle est un peu particulière.
Ouais, 20 boules, 200 000. Là, on commence à faire du bénéf.
C'est fort.
Merdique.
Ah, c'est toi qui fous ta merde.
Qui nous a chopé là?
Bingo! 3 millions!
Fort, hein?
On va la vendre dans mon entier, on va se goinfrer! Génial! Ah, tu pourras mettre de la loquette dans le salon.
Le film Paparazzi d'Alain Barbérien en 1998, c'est une profession immorale, non, Laurent Chalumeau?
Bah c'est une espèce de métaphore ultime du journalisme. C'est-à-dire c'est le cerveau reptilien du journalisme. Mais le paradoxe veut que ces jours-ci, à de nombreuses exceptions près, Dieu merci, le journalisme, dans l'esprit des gens, ressemble à ce qui leur en est donné à voir le plus souvent, à savoir du journalisme assis quand ça n'est pas couché. Alors que le journalisme, c'est plutôt, a priori, essentiellement quelque chose de déambulatoire, de mobile et de, je dirais même, de péripatéticien, mais au sens premier du terme. C'est-à-dire qu'il faut bouger son cul, il faut sortir. Or, on lisait récemment une profession de foi, je crois qu'on dit dans ces cas-là, pro-domo, à son propre avantage, de Christophe Barbier, disant que il fallait surtout pas qu'un éditorialiste aille se frotter au réel, parce que ça affecterait la nature de ses analyses. Tout est dit, on a l'impression qu'il passe aux aveux. Ce qui correspond pour les gens à la figure du journaliste, c'est quelqu'un qui a des avis sur tout, et surtout des avis, et qui dit aux gens comment penser. Alors que Albert Londres, qui a donné son nom à un prix respecté et recherché, disait que le journalisme, c'était de porter la plume dans la plaie. Et donc le paradoxe, c'est que ce soit les pelés, les galeux, les inavouables de la profession qui en fait se retrouvent dans la réalité concrète de l'exercice de leur profession à exécuter les gestes journalistiques les plus purs. C'est-à-dire que ceux qui sont les plus dégourdis en matière d'enquête, en matière de collecte d'informations, en matière de gestion de sources ou d'agitation de réseaux, c'est des gens qui mettent toutes ces qualités de débrouillardise et de ténacité au service de l'obtention d'une présentatrice de 20 heures qui bronze seins nus sur une plage corse. Alors évidemment, à l'arrivée, ça paraît très dérisoire et c'est un peu décevant. Et on aurait envie de rédactions qui stimulent des gestes comparables, mais mis au service de la mise au jour de vérités un peu plus intéressantes et plus utiles au bon fonctionnement d'une démocratie. Mais quand c'est le cas, ça n'est pas forcément bien accueilli.
Votre paparazzo, il grenouille dans une faune branchée, interlope, friquée, on est complètement avec lui. Il se trouve que vous êtes né dans un milieu catholique pratiquant, petit bourgeois, à l'opposé de cet univers-là. Quel rapport vous entretenez avec votre milieu d'enfance? Du coup, vous écrivez sur ce qui ne lui ressemble pas, justement?
C'est-à-dire que moi, quand je grandissais dans une espèce de petit biotope, bien heureusement protégé, préservé, évidemment, j'étais comme la chef de M. Seguin, je voulais aller dans la montagne. Voir le loup. Bah, écoutez, moi, j'ai eu plus de chance qu'elle, mais évidemment, je n'aimais pas mon milieu. À l'époque, quand j'étais enfant, on ne se rend pas compte, mais quand j'étais ado, je trouvais que cette espèce de petite bulle pépère, confortable et sereine, était étriquée et ennuyeuse, et j'avais qu'une envie, c'était d'aller voir du côté des paillettes, de la lumière, de l'agitation, de la vulgarité, enfin tout ce qui me paraissait dynamique. Bon, j'ai pas été déçu, du coup je suis devenu journaliste de rock, donc je pouvais pas mieux tomber, et ce en plus à des années où l'industrie du disque était encore fidèle à sa légende et justifiait encore ses folklores. Mais une fois que je me suis retrouvé, des années plus tard, appartenir, ne serait-ce que statistiquement, fiscalement, à ce que on va appeler, les classes créatives, ou la médiacratie, ou la nomenclatura médiatico-culturelle, toute cette espèce de marigot ou grenouille, et flotte comme des croutons dans une soupe, des gens qui sont vaguement artistes, un peu journalistes, un peu vedettes, j'aime pas non plus mon milieu, j'aime toujours pas mon milieu, en fait, j'ai jamais aimé mon milieu. Mais peut-être que c'est un bon stimulant pour écrire ou pour bouger, mais c'est-à-dire que pris individuellement, la plupart des amis que je peux avoir dans ces professions, ou disons-le autrement, mes meilleurs amis sont recrutés parmi ce qu'on appelle les professionnels de la profession, avec et sans guillemets. Pris individuellement, je les aime d'amour et je suis fier de l'affection qu'ils me portent. Il faut pas en réunir plus de deux. Parce que après, il y a l'effet mécanique du grégarisme qui ne va bien au teint de personne. Mais là, singulièrement, je prends conscience, quand on est plusieurs, du fait que, oui, effectivement, on fait partie, nous constituons ce que Coluche appelait très bien les milieux qui s'autorisent, et ça, franchement, c'est pas ragoûtant.
Et du coup, votre milieu, c'est la littérature. Il y a pire comme milieu, c'est pas mal. Il y a aussi la musique, hein, et on s'est demandé ce qu'aurait pu écouter votre paparazzo comme musique. On a cherché, on a trouvé. Ça s'appelle Ma femme est photographe. Est-ce que ça vous dit quelque chose ?
Du tout.
Eh ben voilà, de Thierry Stremler. C'est un comédien au théâtre et il a fait cette critique au Vitriol du showbiz. C'est un peu la version chantée de VIP.
Ma femme est photographe et moi je suis tous les soirs au bain. On habite un love du côté de Saint-Germain. On a des amis communs avec Julien Clerc et tout le gratin du showbiz de la mode. J'ai eu des propositions à la télévision, au ciné chez Virgin. J'ai failli signer. Ma femme est photographe et moi je suis dans la création. L'autre jour j'ai clopé avec Thierry Harrison. Il m'a promis de me passer à la télévision, que je serai à côté.
L'amuse-bouche sur France Inter.
Laurent Chalumeau est avec nous jusqu'à 20h pour son roman VIP, un polar truculent qui raconte un président de la République devenu meurtrier. Truculent, car Laurent Chalumeau, vous avez l'écriture fleurie. Et ça vous fait un point commun avec Jean Eustache et pas Patrick Sébastien, c'est une bonne nouvelle.
Vous aimez une femme et vous en baisez une autre. Moi, les histoires de cul me font chier un maximum.
Oh là là, je me souviens maintenant de cette histoire que racontait le type du maillot et que j'avais oublié. Il disait, savez-vous quelle est la différence entre la myxomatose et la blénorragie ? Eh bien, la myxomatose est une maladie du lapin et la blénorragie est une maladie de l'apine.
Oui, bon voilà, fallait la faire. Oui, ben, sous la plume, entre guillemets, de Jean Eustache. Ça a une autre envergure quand même. La maman et la putain en 1973. Est-ce que vous auriez pu écrire un polar sans le recours aux gros mots ? Qu'est-ce que ça apporte à votre écriture ?
J'espère que ça l'enracine, que ça lui donne du grain. C'est pas quelque chose que je travaille, c'est pas quelque chose que je force. Je sais pas ce que les gros mots donnent à mon écriture. En revanche, je sais que quand il m'en vient sous la plume, ce sont, quand il s'agit de fiction en tout cas, ce sont ceux des personnages. Donc ce sont des gros mots qui sont censés fonctionner comme des effets de réel et donner de la réalité et de la justesse sonore au monologue intérieur du personnage. Vous observerez que tous les personnages ne parlent pas pareil. Enfin, en tout cas, j'essaye de faire en sorte qu'ils aient chacun leur petite musique. Pour être sûr qu'on s'avise bien de ces différences, maintenant, j'essaie d'avoir toujours des personnages qui parlent très mal, entre guillemets, et d'autres qui parlent sinon très bien, du moins mieux. Moi, j'aime la langue, sous toutes les espèces et sous toutes ses formes. J'aime la rhétorique qui ronfle, j'aime la langue verte, j'aime les argots, j'aime les langues imagées. Je sais que spontanément, je vais écrire gras, pâteux et pâteux.
Oh, vous êtes dur là, je vous rassure quand même.
Non, mais je sais que par exemple, je n'écrirai jamais comme quelqu'un que je vénère absolument, c'est le Annie Ernaux. Dans ma prochaine vie, j'aimerais écrire comme Annie Ernaux. Dans celle-ci, je sais que c'est trop tard. Mais même plus près de moi, c'est pas pour rien que pendant des années, j'ai couru après le dogme d'écriture de Elmore Leonard, qui lui sait écrire avec juste la peau et les os, et qui pratique une prose 0% de matière grasse, alors que moi, c'est tout le contraire. Ce qui me vient spontanément sous la plume, c'est à déconseiller aux diabétiques et aux gens qui ont des problèmes de cholestérol. Et je réussis à le rendre à peu près digeste au prix d'émondages répétés et de grands coups de rabot. Mais donc, voilà, les gros mots me viennent tout aussi spontanément, en fonction, évidemment, des circonstances et du personnage, vont me venir aussi spontanément et aussi, comment dire, goulûment, avec la même gourmandise que les plus que parfaites du subjonctif chez un personnage qui parle avec le petit doigt en l'air.
Le personnage qui prend les choses en main, qui est plus lucide que les autres, c'est une femme. Et pas n'importe laquelle, c'est une femme juge.
T'es folle.
Bah, je suis peut-être folle, mais j'irai jusqu'au bout.
Tous laissés tomber. Tous ceux à qui j'ai rendu service.
Cette juge n'est pas possible. Elle ne comprend rien à la règle du jeu.
Je te conseille de prendre un peu de vacances. Je veux absolument pas que tu aies de problème.
Pour ta prime, je ferai le nécessaire.
Achète-toi une paire de couilles avec. De toute façon, je renoncerai jamais.
Ça va pas se passer comme ça. Jeanne.
Est-ce que je me trompe ou est-ce qu'on dit que le juge d'instruction est l'être le plus puissant de France ?
L'ivresse du pouvoir de Claude Chabrol en 2006. Laurent Chalumeau, que ce soit une femme qui fasse barrage dans votre polar, c'est un petit clin d'œil féministe ? On peut le voir comme ça ?
C'est-à-dire que c'est quelque chose dont je me suis avisé une fois que j'avais fini, avec même l'inquiétude que ça puisse être un peu gros sabot et un peu gros nez. C'est-à-dire qu'en fait, tous les mecs sont des salauds, des titres divers. Enfin, après, le sens qu'on donne au mot salaud peut se moduler, mais enfin, ils ont tous une bite à la place du cerveau, ils sont tous plus ou moins corrompus ou veules ou corruptibles. Et puis, effectivement, il y a plusieurs personnages féminins et il y en a deux qui singulièrement se distinguent par leur conscience professionnelle et leur conscience tout court. Et d'aucuns pourraient me faire valoir que c'est un peu manichéen, ça manque d'équilibre. Et oui, sans doute. Et en même temps, dans le cas d'une juge, c'est un peu un sacrifice, alors là, que je fais volontiers au code du genre. C'est devenu une figure presque attendue, qu'on ait une juge qui, seule contre toutes, et contre tous surtout, se dresse pour provoquer la manifestation de la vérité. Parfois, la vie a imité l'art, d'ailleurs, et la réalité a dépassé la fiction, parce qu'on s'est quand même retrouvé plusieurs fois avec des juges au féminin, qui, en plus de la détestation que les magistrats instructeurs attirent sur leur personne dès qu'ils font ailleurs que là où on leur a dit de faire, se voyaient en prime gratifiés du mépris, là pour le coup genré, que déclenche une femme dès qu'elle rue dans les brancards. Donc oui, là dans le livre, ce sont des femmes par qui le scandale va avoir éventuellement une chance d'arriver. Ce sont des femmes qui font le ménage, de ce point de vue-là. Je ne sais pas si c'est si féministe que ça.
Les hommes les haïssent, ces femmes.
Comme je vous disais plus tôt, j'ai écrit ça dans la suite des tueries de 2015 et j'étais atterré par plein de choses que j'entendais ou que je pouvais lire. Et c'était toujours une parole masculine. Et je ne sais pas pourquoi, les fils se sont touchés, ou au contraire, plutôt, les éléments se sont bien imbriqués. Et je me suis avisé de ce que les gens qui étaient racistes étaient aussi souvent misogynes et sexistes et phallocrates, que la haine des femmes était, ou la peur des femmes. Je suis pas thérapeute, je suis pas psychiatre, c'est des éléments que je manie pas avec beaucoup d'aisance ou de précision, mais on a vu à l'œuvre quelque chose qui s'apparente quand même clairement, sans avoir besoin d'être psychanalyste ou psychiatre. Il y a un problème de zizi. Il y a une haine de l'homme blanc pour lui-même et que les autres n'ont pas fini de payer. Et oui, on vit dans une société où des paroles virilistes revanchardes se voient tendre des micros extrêmement complaisants. Ce sont des questions complexes où tout est dans tout et réciproquement, mais si on devait fonctionner, vous et moi, comme des enquêteurs, en fait, on chercherait pas du tout la femme, on chercherait le petit zizi, parce que tout part de là.
Laurent Chalumeau, vous êtes sinon un homme de pouvoir, en tout cas un homme d'honneur. Et malgré ça, je regrette, il est quand même temps de nous révéler vos secrets d'écriture. Et oui, c'est l'heure du procès verbal. Votre nom ?
Chalumeau.
Votre prénom ?
Laurent.
Vous écrivez assis, couché ou debout ?
Alors, assis, mais parfois les idées viennent en marchant.
Sur ordinateur ou sur papier ?
Les deux.
Chez vous ou au café ?
Chez moi.
Il est quelle heure quand vous vous mettez à écrire ?
Oh, le plus tôt possible. J'ai passé l'âge d'écrire la nuit.
Quelle heure ?
Bah, je sais pas, si je peux être au boulot à 7 heures, c'est pas mal.
Vous êtes en pyjama ?
Je vous laisse vos illusions et je laisse libre cours à toutes les imaginations. Je ne suis pas toujours rasé, voilà.
En période d'écriture, vous dormez plutôt mal ou plutôt bien ?
Plutôt bien, parce que c'est un bon moyen de m'endormir que de penser à ce que je vais écrire le lendemain.
Et vous mangez beaucoup ou au contraire vous oubliez de manger ?
Ah, je bouffe tout le temps.
Et qu'est-ce que vous faites quand ça ne vient pas ?
J'insiste. Parfois, ce qui va me déclencher, c'est d'aller faire tout autre chose, d'aller voir un film, un épisode de série. Et là, ça va allumer le feu ou faire démarrer le moteur. Et d'autres fois, c'est en insistant, en se tapant la tête contre l'écran de l'ordinateur jusqu'à le fendiller.
Vous êtes libéré de ce procès verbal, Laurent Chalumeau, comme le président de votre livre d'ailleurs. Vous n'avez rien à craindre, en tout cas c'est ce que vous pensez. Et pour fêter cette innocence, écoutons That's What I Like. C'est un morceau de Pete John en américain, je ne sais pas comment on prononce, mais c'est un rappeur américain qui était persuadé que Jésus lui a envoyé un pigeon mort et que du coup ça voulait dire bah, appelle-toi pigeon comme nom de scène. Donc heureusement qu'il n'a pas reçu autre chose sur la tête. Non mais c'est véridique comme histoire, je vous assure.
Part of it, come on and let me in. Let's get it set up. That's what I like. That's what I need. Just what I want. So give it to me. Give it to me. Give it to me. Catch a break. You know I love the chase, so hit the throttle. That's what I like. That's what I need. Just what I want. So give it to me. Give it to me. Give it to me.
Écoutez la Muse-Bouche sur France Inter jusqu'à 20h avec Laurent Chalumeau, auteur de VIP, un polar qui décape le vernis du monde du pouvoir, qu'il soit politique ou branché. Eh bien, figurez-vous, Laurent Chalumeau, qu'il existe des hommes et des femmes de pouvoir qu'aucun roman ne parviendra à faire vaciller. Ils sont indéboulonnables. Ce sont les libraires. Et oui, un être de mots est un être de pouvoir, disait Lao Tzu. Non, il n'a jamais dit ça, mais quand vous ne savez pas, vous dites là au-dessus, ça marche toujours. Bon, en tout cas, toujours est-il que ces êtres de pouvoir et de mots ont pris une habitude assez bizarre. Ils nous appellent. Et alors, ils nous appellent à cette heure-ci, je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas. Ah ! Qu'est-ce que je disais ? C'est une soirée téléphone, spéciale pour vous. Allô ?
Bonsoir, c'est Lucie, j'appelle pour l'apéro.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Lucie. Je flaire la tonalité de votre voix, que vous êtes une femme à poigne, Lucie. Ne seriez-vous pas Lucie Savina de la librairie Nouvelle à Asnières-sur-Seine ?
Voilà.
C'est bien vous. On est d'accord.
On est d'accord.
Quelle est la situation la plus farfelue que vous avez vécue dans votre boutique, Lucie ?
Alors, moi, c'était il y a quelques mois. Dès qu'un auteur appelle pour parler de son bouquin ou faire une dédicace, on me le passe puisque je m'occupe de la littérature. Et donc, du coup, je prends au téléphone un jeune homme qui s'appelle Tom Graffin pour son premier roman, Jukebox Motel. Et donc, il commence à me parler. J'ai bien l'impression qu'il me connaît, que j'ai déjà discuté apparemment, sauf que moi, pas du tout. Et au bout d'une dizaine de minutes, on se rend bien compte qu'il y a un petit flottement. Et en fait, il s'était planté de librairie. Il pensait appeler la librairie nouvelle d'Orléans, avec qui il a eu déjà contact.
Oui.
Sauf que là, il a appelé la librairie nouvelle d'Asnières.
Eh bien, il s'est trompé.
Voilà.
Mais moi, du coup, vous avez découvert un bouquin, alors.
Un super roman.
Et oui, c'est ça.
C'était assez rigolo.
Et quel roman conseilleriez-vous à notre invité Laurent Chalumeau ?
Laurent Chalumeau. Je vous conseille En pays conquis, de Thomas Bronek, qui est édité chez Série Noire, chez Gallimard.
C'est un roman policier.
C'est un roman policier assez noir. En fait, ça se passe au lendemain de la présidentielle. Le président de gauche est réélu, sauf qu'il perd la majorité. Et que l'Assemblée se retrouve à droite, voire extrême droite. Et c'est un petit peu ce marasme politique, c'est l'histoire de ces coulisses et de ce système un peu gangréné par la corruption.
On retrouve un peu l'univers de Laurent Chalumeau dedans, sur la levée des coulisses. Et c'est pas reluisant, hein, par contre. Hein.
Non, c'est pas reluisant. En fait, ce qu'il y a dans le roman de Laurent Chalumeau, c'est cette espèce d'humour, ces espèces de petites bouffées de cynisme assez drôle, ce qu'il n'y a pas du tout dans le roman de Thomas Bronek. On est vraiment dans une situation...
C'est noir chez lui, donc.
C'est noir de chez noir, exactement.
Vous nous rappelez les références, Lucie, du livre de Thomas Bronek ?
Alors, ça s'appelle En pays conquis, et c'est à la Série Noire chez Gallimard.
Merci, Lucie Savina, de la librairie
Merci,
Nouvelle.
Merci, j'ai tout noté.
À Asnières-sur-Seine, j'espère bien. Et merci au magazine Page, la revue des libraires, partenaire de la Muse-Bouche. Lucie, on vous attend pour l'apéro. Un petit vin d'honneur comme on fait dans les mairies municipales. Une petite cérémonie municipale.
Pas de problème, j'arrive.
À tout de suite. C'est l'heure des inavouables. Oui, Laurent Chalumeau, parce qu'on a beau être le président des paparazzis, on n'en est pas moins d'hommes. Hein, je vous apprends rien. Dont acte. Y a-t-il un film, une chanson ou un livre catalogué un petit peu ringard, un petit peu kitsch, mais que vous aimez en toute discrétion?
Mais non, parce que le problème, c'est que j'aime quasiment que ça.
Vous n'avez que des inavouables.
Ben oui, et en fait, j'ai un peu comme une horloge arrêtée. Je me retrouve bien involontairement et presque à mon corps défendant à donner l'heure juste de nos jours où, en fait, tout est matière à réhabilitation et à récupération. C'est-à-dire que ce qui, il y a encore quelques années, n'aurait pas été touché avec une gaffe à péniche par les beaux esprits, est devenu maintenant, au prix d'une espèce de tour de passe-passe ironique et pince sans rire et dandy. Au contraire, le comble du chic, c'est-à-dire que des choses que j'avais...
Il existe des choses un peu très ringardes quand même, qui ne sont pas encore remodelées, renouvelées.
Rien ne sera jamais assez ringard. C'est-à-dire que maintenant, au contraire, plus il y a une espèce de course à la récupération du ringard, qui est un combat perdu d'avance pour ceux qui y sont engagés. Moi, j'ai des goûts ringards parce que je suis comme ça. J'ai des goûts de chiottes, mais c'est assumé. Et à partir du moment où je l'ai identifié, j'ai essayé d'en faire quelque chose. Mais c'est sincèrement que j'aime, par exemple, la musique country. C'est sincèrement...
Et laquelle de musique country ?
Déjà, la musique country en elle-même, c'est considéré comme... pire qu'un crime idéologique, puisque chacun a tort ou a raison et convaincu qu'il s'agit de la bande originale du Ku Klux Klan quand ils vont faire brûler des croix devant une église fréquentée par des Afro-Américains. Mais c'est plus donc un crime idéologique, c'est une faute de goût. Alors après, il y a des degrés dans l'abomination, et il y a l'une des cathédrales, l'une des vaches sacrées, si j'ose dire, de la musique country, l'une des pièces fondatrices. C'est une chanson de Tammy Wynette qui s'appelle Stand By Your Man, et qui est une ode au stoïcisme marital et à la résignation conjugale. Alors évidemment, quand on le prend au deuxième degré, ça passe très bien. Au premier, ça peut provoquer des haut-le-cœurs, mais il faut faire gaffe avec la musique country, parce qu'on commence au deuxième degré, et en fait, on se fait aspirer et on finit par l'aimer au premier degré.
La preuve.
C'est bien elle.
On est d'accord, vous confirmez.
C'est bien elle.
C'est pas la chanson la plus progressiste du monde. Hein.
Non.
On va pas se mentir. Parce que c'est, elle fait un peu la leçon aux femmes en expliquant que si leurs gars ont beaucoup de défauts, il faut quand même rester avec eux.
Absolument. Il y a ces vers absolument... je ne sais même pas comment les qualifier. Je dirais merveilleux. Après, on met ou pas des guillemets merveilleux. Où elle explique à son interlocutrice que l'homme passera de bons moments, tandis que elle passera de mauvais moments à faire des choses qu'elle ne comprendra pas toujours. Quand je disais que c'était étouffe chrétien, c'est, je plaisantais pas.
Est-ce qu'il y a un film parmi vos inavouables, Laurent Chalumeau ?
Alors oui, longtemps j'ai préféré Dean Martin à Frank Sinatra, et de la même façon, je préfère les films de Tony Scott à ceux de Ridley Scott.
Ridley
Scott, c'est considéré. Enfin, il a effectivement un tableau de chasse assez impressionnant, et c'est donc recevable par la doxa cinéphile. Son frère, ancien réalisateur de pub, en revanche, a signé des nanars que même moi, je trouve un peu indigeste, comme Top Gun ou Revenge.
Mais c'est formidable.
Mais il a aussi, après, aligné un certain nombre de films de pur divertissement que je ne me lasse pas de voir et de revoir, comme Spy Games, comme Ennemi d'État.
Ou comme Le Dernier Samaritain.
Comme l'excellent True Romance et comme Le Dernier Samaritain.
Un peu tard pour se promener, non ?
Il veille à nos mœurs.
Vous allez pas cafeter, surtout.
Toi, tu la fermes, Duglan.
C'est moi, Duglan. Lui, c'est Trouduc.
Jake. Le bouffon de service n'a aucune idée de ce qu'on lui réserve. Peut-être que tu pourrais nous dispenser de ce genre de blague à la con.
C'est l'enveloppe que vous voulez.
Oui, l'enveloppe. T'es un petit malin, toi. Tu vois, Jake, ce monsieur sait quand la situation devient inassumable.
Joli mot.
Tu l'aimes, ce mot ?
C'est bon, on s'écrase, Trouduc. On a affaire à deux petits génies.
Hé, hey, fous-lui la paix.
Tu veux la paix ? D'accord, comme tu voudras. Jack s'investit dans son rôle avec une certaine exubérance.
Oh merde, on n'a pas de peau, on est tombé sur un as du Scrabble.
Voilà, donc c'est pas...
C'était la voix française de Bruce Willis.
Mais un film avec Bruce Willis ne peut pas être complètement mauvais, vous êtes d'accord ?
Non, je ne suis pas d'accord. On va pouvoir en trouver.
C'est sur ces paroles définitives que nous rongeons les amuse-bouches pour passer à table. Venez, même si vous êtes président de la République, on s'en contentera, c'est pas grave. VIP de Laurent Chalumeau est paru chez Grasset. La semaine prochaine, nous recevrons Christophe Blain pour sa bande dessinée Gus, paru chez Dargaud. L'amuse-bouche est géré comme l'Élysée, avec à sa tête Marie-Annick Rimbaud, Claire-Sophie Collet, Thierry Dupin et Éric Morin. Après 20h, ce sera D'ici d'ailleurs de Zoé Varier. Bonne semaine et n'oubliez pas de vous montrer un peu faible et lâche, c'est la clé du pouvoir après tout. On vous embrasse et à samedi.